Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La gratuité de sa morale, serait-ce ce que l'accusateur reproche au poète ? Et quand bien même. Et si le clin d'œil était une auto-contradiction ? Et s'il était important et non interdit d'être en même temps le scandale et l'imposteur ? Après tout, disait Jean Cocteau, je n'ai jamais prémédité le scandale, je le crois indispensable. Étonnante émission que ce procès des pontifes, diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 janvier 1949, avec une distribution de qualité.
Le Club d'essai présente le procès des pontifes. Les auteurs arrivés, vus par ceux qui arrivent. Une émission de Pierre Perroux et Claude Roland-Manuel. L'accusé du jour est Jean Cocteau. Le défenseur, Boris Vian. L'accusateur, François-Régis Bastide. Les pièces à conviction seront lues par Marguerite Cassan et André Vard. Réalisation de Claude Roland-Manuel. Pierre Perroux vous présente l'émission.
Le procès des pontifes n'est pas un jeu de destruction systématique, un jeu de massacre pour étudiants en veine de canular. Du reste, procès ne signifie pas condamnation, mais mise au point et clarté. Le procès des pontifes nous permet donc, d'abord, de réexaminer une importante figure de notre temps. Il nous permet ensuite de voir comment tel romancier de 25 ans réagit en face des 25 volumes d'un grand aîné, dans quelle mesure il se réclame de lui ou s'oppose à lui. Ainsi pourrons-nous, sans doute, apercevoir quelques tendances nouvelles. Un mot, enfin, pour vous éclairer sur nos audiences. Comme au palais de justice, nous entendrons le président préciser les reproches qui sont adressés à l'accusé, après quoi le ministère public et la défense pourront exprimer leur point de vue contraire. Enfin, nous donnerons la parole à l'accusé, qui aura toute latitude pour se justifier à l'aide de son œuvre. Le procureur et l'avocat sont toujours deux jeunes confrères du pontife prévenu. Le réquisitoire est prononcé aujourd'hui par François-Régis Bastide, auteur de La Lettre de Bavière et d'un roman psychologique, La Troisième Personne. Ensuite, ce sera la plaidoirie de Boris Vian, auteur de plusieurs romans d'inspiration baroque, dont L'écume des jours est sans doute le plus important, et traducteur habituel de l'américain Vernon Sullivan. Cocteau Jean, né le 5 juillet 1889, à Maisons-Laffitte, Seine-et-Oise. Auteur dramatique, romancier, essayiste, dessinateur, cinéaste, acteur à l'occasion. Pour les uns, poète à 100 facettes, poète en tout genre, poète sensible, dont les jeux cachent la pudeur. Pour les autres, fabricant habile, capable à force d'art de donner l'illusion des élans du cœur. Homme plus intelligent qu'ému. Jean Cocteau, on a dit de vous que la gentille France n'avait pas de causeur, d'accompagnateur de ses délices, de maître de ballet, de chef de protocole, plus gentil que vous. On a acclamé ou vilipendé votre génie jaillissant ou vos chaînes de fabrication, votre générosité ou votre égoïsme. On a dit que vous étiez avant tout un homme de conversation, et on vous a comparé à Fontenelle, auquel vous avez emprunté votre dernier titre, La difficulté d'être. Il faut éclaircir tout cela sans plus attendre. L'accusation, en la personne de François-Régis Bastide, a la parole.
En vérité, ma dette de reconnaissance envers M. Jean Cocteau est trop grande pour que je puisse me permettre aujourd'hui de prononcer contre l'auteur des Enfants Terribles un réquisitoire que ma jeunesse rendrait suspect. Nous sommes nombreux, très nombreux, qui, lorsque nous étions adolescents, du fond de notre province, où patiemment nous attendions de prendre l'envol de Julien Sorel, blottis amèrement au creux de notre lycée de poussière, ramassés sur nous-mêmes, sur nos premiers appétits, sur nos premières défaites, éclairés seulement par les ignobles théâtres de tournée, par les académiques conférenciers, nous sommes très nombreux, dis-je, qui nous sommes réunis le soir, seuls, en haut des maisons, mal réveillés, en âge, et avons rafraîchi notre fièvre au poème miraculeux de Jean Cocteau. Et plus tard, à l'âge où, enfin parisien, l'on va frapper à la porte des poètes que l'on a lus enfant, et où on leur quémande une solution, un conseil, une vague promesse, un sourire mince même, j'ai trouvé des fossiles de grimoire. Chez Jean Cocteau seul, j'ai trouvé la chambre de rêve, et l'homme exact de mes rêves, un poète vivant. C'est peut-être de vous avoir tant aimé, Jean Cocteau, à l'âge où l'on veut aimer, qui me rend maintenant si hardi pour exiger ce que vous n'avez pas donné. Mais quoi, dira-t-on, et je pense que la défense ne manquera pas de le dire très haut, le poète qui a donné des poèmes et des poèmes de romans, de drames romantiques et des comédies de boulevard, des journaux intimes et des manifestes littéraires, des critiques de littérature et de peinture, des albums de dessin et des films, l'homme qui a été l'étincelle de toute la vie musicale d'après 1920, vous allez lui reprocher de ne pas avoir assez donné. Non. Je veux dire par là que Jean Cocteau a beau se consumer d'expériences esthétiques, je lui reprocherai seulement de s'être trop souvent pris au jeu et de ne s'être pas trouvé lui-même. J'ai caché le drame du Potomac sous mille faces, écrivait-il au début de son âge. Je lui reprocherai seulement de ne s'y être pas retrouvé. Je sais bien que le public est très fautif. Je sais qu'on a élevé Jean Cocteau dans le plus dangereux des mythes, celui des enfants prodiges, et qu'on lui a lentement, insidieusement, à coups de sourires, de bonbons, de salons bourdonnants, suggéré qu'il mourrait s'il avait une seconde le trac sur sa corde raide, qu'il ne se métamorphosait pas tous les soirs. Il avait des tics, c'était là son génie. Il en a fait des clins d'œil au public pour le rassurer. Je vois bien, la défense ne peut s'empêcher de réagir. Ce ne sont pas les tics, comprenez-moi bien, que je reproche, mais les clins d'œil. C'était un enfant doué, un enfant terrible. Il fallait le laisser faire et le laisser aller seul dans la voie du renoncement qu'il aurait fatalement trouvé et où l'exercice de son art se serait épanoui. J'irai plus loin. Après L'Aigle à deux têtes, Jean Cocteau écrivait « L'art ne vaut à mes yeux que s'il est la projection d'une morale. » Mais à la fin de La difficulté d'être, où il s'examine avec une rare lucidité, intrépide et stupide, il te fallait prendre un parti de la limite, la difficulté d'être, puisque pour ceux qui embrassent une cause, ce qui n'est pas cette cause n'existe pas. Mais toutes les causes te sollicitent. Tu as voulu ne te priver de glisser entre toutes et faire passer le créneau. Toute l'exigence de Cocteau était donc là. Ne se priver d'aucune cause. Se laisser prendre à tous les pièges. Construire soi-même sa légende, tapageusement. Je veux dire, ne pas empêcher le public d'y croire. Laisser monter à lui tous les rythmes maladifs de son enfance. Et en faire ses lois de grande personne. L'enfant terrible était devenu Jean l'imposteur. Ce n'est certes pas d'avoir fait scandale que je reprocherais à Jean Cocteau. Ce n'est pas d'avoir secoué quelques braves gens en torpeur, ni d'avoir posé les énigmes au-dessus des têtes pensantes, même si elles éclataient de façon infernale. Ce n'est pas de cela que je parle, et je lui sais gré d'avoir montré ce cas de scandaleux, de surhumain, la situation du poète en notre société, et particulièrement en notre société française. Mais je lui reprocherais d'avoir prouvé, involontairement je suppose, qu'on peut être en même temps le scandale et l'imposteur d'un scandale, et d'avoir ainsi gâché le métier de scandalisateur déjà si rarement exercé. Ainsi, à la fin de Thomas l'imposteur, que je tiens pour un des plus beaux récits français, lorsque le jeune Guillaume Thomas, défiant les balles allemandes, crie « Fontenoy », tombe et se dit aussitôt, c'est son dernier mot, « Je suis perdu si je ne fais pas semblant d'être mort. » Je me demande si la balle était si mortelle que cela, et personne ne m'empêchera de penser qu'elle ne l'était pas, et que Thomas l'imposteur est mort d'avoir fait semblant de l'être. De même, Jean Cocteau risque fort de mourir d'une allégorie fulgurante. Il y a plus encore. Grâce à son extraordinaire pouvoir de métamorphose qui est sans aucun doute le propre du poète. Mais faute de s'être cherché lui-même, Jean Cocteau a derrière lui une œuvre dont la splendeur glacée nous séduit, mais où je crains bien que manquent les cris d'amour. Je vois que je vous fais frémir, mais il me semble tout de même qu'en parlant de Cocteau, on a souvent évoqué Ronsard, qui lui aussi est un poète de sang et de neige. Je crains fort que par la suite, le nom de Malherbe ne soit plus souvent prononcé. Les héros de Jean Cocteau, ceux de son théâtre, de ses romans, de ses films, semblent tous avoir adopté comme règle de vie la dernière phrase du grand écart. Jacques se sentait devenir sombre. Il savait bien que pour vivre sur terre, il faut en suivre les modes, et le cœur ne s'y porte plus. Je sais que cette phrase ressemble à une certaine autre dernière phrase que prononce le lieutenant Lucien Levenne à la fin d'un grand livre, et qu'il y a chez Jacques Forestier, chez Jean Cocteau, dans ce grand écart acrobatique qui sépare l'adolescence de la jeunesse, une forte teinte de bellisme. Mais quelle différence! Les héros de Stendhal ne parviennent au degré de sécheresse convenable qu'à force de passion contenue et inavouée, comme celle de Lucien Levenne pour Madame de Chastelet, celle du petit consul de Civita Vecchia pour Méthilde. À ce prix, la sécheresse, quand elle dit dans le même temps qu'elle dessèche, ce qu'elle dissimule est admirable, plus excitante qu'une épopée. Mais voyez au contraire Thomas, Forestier, Paul et Élisabeth, Édipe, Galade, Renaud comme Armie, Michel même, des parents terribles. Ils semblent tous, à première vue, disposés à la passion. Mais on les sent toujours sujets à se laisser abattre par l'improviste qui circule dangereusement le long de leur vie. Vient un moment où un mécanisme divin, je crois, dans l'esprit de Jean Cocteau, les pétrifie. Et c'est dans cette pierre que réside le secret de l'extase coptique. Cela peut donner au cinéma de fort beaux résultats, au théâtre même, quand il s'agit d'Orphée, et c'est ce que la Défense dira certainement tout à l'heure. Je me demande, moi, si cet art est vraiment la projection d'une morale humaine. Je me demande si les héros de Cocteau sont vivants, puisque lorsqu'ils ne sont pas pierres, ils sont mélodrames, et qu'ils ne nous émeuvent que par cette pierre ou par ce rouge et or, jamais d'une autre façon. Encore une fois, cédant maintenant la parole à la Défense, avec qui je suis tout disposé à applaudir Jean Cocteau comme un des grands poètes français, je dirais que celui qu'on m'a demandé d'accuser m'est trop cher pour que je ne me sois accablé moi-même. Mais je dois aller jusqu'au bout, messieurs, et dire que puisque le chef-d'œuvre de Cocteau, c'est Jean Cocteau, je demanderai la tête de Jean pour laisser Cocteau grandir.
La parole est à Boris Vian, pour la défense de Jean Cocteau.
Messieurs, avant de plonger l'accusation dans la confusion qu'il lui a plu d'encourir, je crois de mon devoir de résumer ses chefs principaux, car si j'ai personnellement eu le temps de saisir leur essence étant donné ma longue pratique de la justice, je doute que l'auditeur honnête puisse se trouver au même point. Et quand bien même, d'ailleurs, vous avez déjà tous compris, il entre dans mon plan de démoraliser l'adversaire par des griefs dont le manque de fondement ne pourra que renforcer l'efficacité. Voici donc ce que Bastide reproche à Jean Cocteau. D'une part, les clins d'œil systématiques au public. Il aurait même pu dire les clins d'yeux, car Cocteau se sert sûrement des deux. D'autre part, la gratuité de sa morale. Toutes les causes te sollicitent, tu as voulu ne te priver d'aucune, te glisser entre toutes et faire passer le traîneau. Gâchant ainsi, dit Bastide, le métier de scandalisateur. Et enfin, sa sécheresse et la part trop grande faite au mécanisme qui, chez lui, arriverait à tuer la passion. Allons, Bastide me rend la tâche aisée. Encore faut-il que je surveille mes arguments, car, selon le docteur Pérou, tous ceux qui parlent de Cocteau arrivent à se contredire. Se contredire. Revenons à ce clin d'œil. Qu'est-ce donc qu'un clin d'œil, sinon une auto-contradiction ? Contradiction systématique, c'est donc cela, Bastide, qui vous gêne en lui. Mais c'est une illusion. Il ne peut y avoir de contradiction réelle que dans la simultanéité, dans la dualité par conséquent. Et le clin d'œil, la contradiction, relève d'un souci de vérité bien plus grand que celui de ces gens qui regardent l'eau s'en aller tout droit, sans se demander quel mystérieux trajet en suivent à chaque instant les molécules. Mais écoutez, c'est Cocteau lui-même qui parle dans la noce massacrée. La sincérité serrée de chaque minute même, lorsqu'elle offre une suite de contradictions apparentes, trace une ligne plus droite, plus profonde que toutes les lignes théoriques auxquelles on est souvent tenu de sacrifier le meilleur de soi. Ce clin d'œil au public, mais non, ce n'est qu'un souci de sincérité. Et comment lui en tenir grief ? N'est-ce pas la plus belle honnêteté que celle qui consiste à douter de la sienne propre ? Voici donc le premier point de Bastide, réfuté, je pense, complètement. Mais passons au second reproche. Cocteau a-t-il réellement gâché le métier de scandalisateur ? Cela, je ne le crois pas non plus. Car donner tort à celui qui gâche un scandale, c'est considérer alors comme scandaleux le fait de ce gâchage. Celui qui gâche un scandale ne fait donc ainsi qu'en créer un autre. De même, la vérité du mensonge est l'acte de celui qui ment. Et j'ose à peine réfuter la troisième accusation dont Cocteau se trouve aujourd'hui l'objet. Je sais qu'elle est liée à tout un arsenal de reproches. Jean est plus mécanicien que poète. Un poète est irresponsable, Jean ne l'est pas. C'est à voir. Quand on est doué comme lui, on ne peut guère faire autrement. Cocteau en a trop fait. Mais rappelez-vous cette devise qu'il prend pour sienne, encore dans la noce massacrée. Un peu trop, c'est juste assez pour moi. Non, je sais que c'est la part de hasard, d'arbitraire, ce que l'on appelle, dans un film comme La Belle et la Bête, la fausse poésie de Cocteau. Je sais que c'est tout ça qu'on lui jette à la figure quand on ne sait plus quoi dire. Mais certes, Cocteau a envie qu'on l'aime. Certes, il fait ce qu'il faut pour cela, au risque de se voir reprocher ses clins d'œil, sa froideur, ses artifices. Et que m'importe ? C'est ça que j'aime, moi, la fausse poésie, le faux lyrisme, la fausse morale, tout cela. Parce que toute cette fausseté, c'est du vrai Cocteau.
L'accusé a la parole.
L'accusé ne s'est pas présenté.
En son absence, nous donnons la parole à son œuvre.
La vie d'un homme pur ne doit être faite d'aucun acte qui se puisse légitimer sans effort devant les tribunaux. Et les tribunaux ne valent jamais l'effort d'un homme pur. Un homme pur cesse de l'être dès qu'il combine, dès qu'il accepte une position favorable et profite d'un parti.
Est-ce une défense ? Non. Eh bien, en l'absence de défense, nous vous livrons les 7 premières pièces à conviction.
Première pièce extraite de...
Des beaux-arts considérés comme un assassinat. Les statues...
Vives.
Les perspectives...
Tu.
Nous vous livrons quelques statues. Deuxième statue.
Les cheveux gris qu'en jeunesse les portes font doux les yeux et le teint éclatant. Je trouve un plaisir de la même sorte à vous voir, beaux oliviers du printemps. Tout de votre adolescence chenue me plaît, moi qui suis le soleil d'hiver, et qui, comme vous, sur la rose nue, penche un jeune front de cendre couvert.
Troisième pièce.
Yé, yo, yé, oui, oui, yo, yé, aoé, iaoé.
Auya ou aoé, yo, 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 yu. Aïe-o-u, uae, oui-oui, yo-ué, oé-o, yé-yé, et écoute la musique des étoiles.
Quatrième pièce à conviction.
Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou. Car je pense à la mort, laquelle vient trop vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre paire ? Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur. Quoi, ce timide oiseau replié sur le songe déserterait son nid où notre corps à deux têtes s'allonge par quatre pieds finis. Puisse durer toujours une si grande joie qui cesse le matin et dont l'ange chargé de construire ma voix allège mon destin. Léger, je suis léger sous cette tête lourde qui semble de mon bloc et reste en mon abri muette, aveugle, sourde malgré le chant du coq. Cette tête coupée allée en d'autres mondes où règne une autre loi, plongeant dans le sommeil des racines profondes, loin de moi. Près de moi. Ah, je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge souffler jusqu'à ma mort.
Cinquième pièce, le train musical.
12 statues dans un pré d'étoffes rouges drapées et qui usent de la ruse en usage sur les frises, après chaque assassinat.
Enroulement du profil sur une bobine à fil, linge et fausse vache sous de fausses taches.
De ces taches empourprées, 12 statues dans un pré se dépeignent, baignent, plaignent, saignent et me font des signes, avec des mognons de bras. Regardez ce pré de près, il vous livre ses secrets. Ciel, ses linges et ses langes d'anges n'étaient que les singes. Fuyez vite ce pré-là. Linges lynchés ou pendus, sans des marbres répandus, sont votre musique, fil télégraphique. Sixième poème.
L'usine à faire les morts avait son service d'hygiène. Tous les jours, 200 condamnés vont à la douche. 200 bestiaux tout nus, sauf le bracelet matricule. Ils se débattent presque tous tellement ils ont peur de l'eau. Ils veulent garder leur chemise. Mais les fusiliers marins savent la valeur de l'eau douce qu'on respecte comme une vierge sur les voiliers. On met les capotes, les casques, à bouillir dans une étuve. Les casques, on dirait des moules. La chaleur charme les poux. Septième et dernier poème.
Les anges maladroits vous imitent, pigeons. Vous saluez Marie. Eux, devant leur guérite, gardent la France. Hélas, nous les décourageons. Toute la nuit, le ciel cueille des marguerites. La dernière cueillie, on ouvre les volets. Voici venir l'automne et la chute des anges. Les anges répandus comme le pot au lait. Arbre en or, l'opéra donne beaucoup d'oranges. C'est surtout vers le haut que le public les mange, car vers le bas, manger des oranges déplaît. Ce poème en d'hiver est-il beau, est-il laid? Il n'est ni laid ni beau, il a d'autres mérites.
Les parents terribles sur la scène des ambassadeurs.
La opéra.
Ils ne peuvent pas nous entendre de l'atelier.
Mais vous savez bien que non.
Que me dites-vous?
Il me serait impossible de vous tutoyer, pardonnez-moi.
Oh, à ton aise. Moi qui te demande s'ils peuvent nous entendre de là-haut. Tu m'as enfermé deux fois là-haut, les deux premières fois que ta sœur venait te rendre visite. C'était Michel.
Oui.
C'est admirable. Et après, tu as trouvé plus commode de me faire louer un pied-à-terre. Pourquoi continuais-tu? Pourquoi mentais-tu? Il fallait vivre, tu aidais Michel.
Oh, Georges, Michel était un enfant, il était plus pauvre que moi. Moi, je lui payais des cigarettes, des repas.
Ici, nous rentrons dans le convenable, oh. C'est moi qui payais.
Je gagne assez avec mes reliures pour me débrouiller seul.
Oh, j'aime mieux penser que cet argent lui venait de moi. Il me semblait que le mensonge te rendait folle. Pourquoi mentais-tu?
Vous ne me croyez pas, c'est inutile.
Toi, mais... toi, une menteuse, toi.
Et vous, pourquoi m'avoir menti? Vous avez été prudent. Quelle confiance vous aviez en moi.
J'ai tout fait chez moi. Je me sentais seul, dans le vide. J'en ai souffert. J'ai voulu en jouir. J'ai voulu que cette solitude devienne une chance, qu'elle soit vraie. J'ai triché. J'ai inventé une fable. J'ai poussé le scrupule jusqu'à ne pas te parler de mes marottes. Quand j'étais chez toi, chez nous, j'étais seul au monde, libre. J'oubliais même Michel. Je ne confondais jamais mes deux vies. C'est te dire le coup que m'a porté Michel hier en m'apprenant la vérité.
Si tu m'avais dit ton vrai nom...
Mais tu n'en aurais pas moins rencontré Michel.
Je l'aurais évité.
Allons donc, tout au plus devancer notre rupture. Au lieu de recevoir mon congé hier ou aujourd'hui, je le recevais il y a 3 mois. Pourquoi n'as-tu pas eu cette franchise?
Vous ne me croiriez pas, je vous le répète.
Oui, c'est facile, la combinaison t'arrangeait. Un vieux, un jeune.
Oh, Georges, n'ajoutez pas de saleté au gâchis où nous sommes. Moi, je vous mentais parce que je vous aimais, Parce que je vous aime.
Incroyable.
Oui, Georges, j'ai pour vous une tendresse immense.
Naturellement.
Laissez-moi parler. Que vous le vouliez ou non, je vous ai donné ce que je croyais, ma mesure. Vous me parliez d'une fille morte. Vous étiez bon. Vous ne ressemblez pas aux autres hommes. Moi, j'étais une loque, une noyée, oh, presque. Je me suis accrochée à vous, je me suis attachée à vous de tout mon cœur.
Je ne vois qu'une chose, m'aimais-tu?
Oh.
Je t'aimais, moi, je t'adorais, moi. Et je te demandais mille fois, m'aimes-tu? Et j'ajoutais, c'est impossible, et tu me répondais, mais non, Georges, je t'aime, est-ce exact?
Mais Georges, il y a des réserves qu'on n'exprime pas, qui se devinent. Il m'arrivait de répondre à vos questions, je t'aime beaucoup. Vous vous mettiez en colère, vous me suppliez, vous me harceliez, moi... De guerre, là, je vous disais, mais oui, Georges, je t'aime tout court.
Mais il ne fallait pas me le dire.
Ces derniers mois, quel cauchemar. J'ai tenté l'impossible pour vous ouvrir les yeux. Vous ne vouliez rien voir, rien entendre. Mais vous vous obstiniez dans votre attitude, contre toute sagesse, contre toute gentillesse.
Mais il était trop tard, petite malheureuse. Si tu m'avais dit, attends, je ne t'aime pas, j'essaierai, tu dois attendre. Mais tu m'as engagé à fond. Tu m'as laissé t'aimer, m'enfoncer, me prendre. Tu m'as traîné, lanterné jusqu'à ce que l'amour te tombe du ciel. Et comme je te dérangeais...
Oh, c'est faute. Non, je ne pouvais me résoudre à vous causer la moindre peine. Avant que je sache, cette rupture me torturait. Je l'ai dit à Michel. Je ne pouvais pas lui donner une plus grande preuve d'amour.
Aimes-tu Michel?
Au compte de qui m'interrogez-vous? À son compte ou au vôtre?
C'est son père qui te parle.
Je l'aime.
Avril 1943, Renaud et Armide au Théâtre Français.
La Sautéa.
Ne parlons plus de fils, de devoir ni de France. Où tu n'existes pas, tout m'est indifférence. Quoi, j'aurais surmonté océans et détroits. J'aurais soumis partout des villes et des rois. J'aurais, lorsque le vent désempare les voiles, fait lire mon chemin au livre des étoiles. Et debout, au milieu de terribles clameurs, ranimé de mes cris le rythme des rameurs, nous serions morts de soif dans un désert torride, parce que mon seul but était d'atteindre Armide. Et lorsque je la cherche et je la trouve enfin, c'est alors qu'il me faut mourir de soif, de faim, connaître coup sur coup la chance et la déroute. Non, non, Armide, non, j'ai gagné cette joute, je ne te quitte plus. J'ai découvert mon port. Je veux bien, pour te plaire, assagir mon transport, mais c'en est fait. Renaud, dans le bonheur, se couche. Le prix de son voyage est de baiser ta bouche. Toi-même, à la victoire, Armide, tu m'aidas. Je t'aime.
Oublions tout, Renaud. Et tes soldats? J'étais folle, entends-tu le tambour et le cuivre? Tes soldats partiront, il te faudra les suivre. J'avais raison, Renaud, de me désespérer.
Je les haranguerai, je les embarquerai. Et s'il me faut les suivre, Armide, je t'emporte.
Peut-être que ta femme est infidèle ou morte. Tu reviendras de France et nous nous marierons.
Armide, t'infliger le pire des affronts? Que m'importe mon règne et ma femme et mes proches?
Pourrais-tu des soldats admettre les reproches? Pourrais-tu supporter leur outrage muet?
Quelle ivresse en mon cœur, ce tambour remué, roule tambour.
Tu m'en voudras de ta traîtrise.
Cette décision, Armide, je l'ai prise. Tu ne m'aimes donc pas?
Cruel, que me dis-tu? J'essaie avec horreur d'exciter ta vertu. Pour allumer en toi la flamme du courage, je redresse mon cœur secoué par leur âge. Je me demande au fond d'un affreux désarroi si je n'aime qu'un homme ou bien si j'aime un roi. Rien n'est d'un pauvre cœur qui soit même sans pute. Je me condamne à mort et ma main m'exécute. Ma mort sera d'attendre, attendre en ce palais. Est-il un prince aimé, Renaud, comme tu l'es? Je m'oblige au devoir. Je tremble de me vaincre. Contre toute mon âme, il me faut te convaincre. J'empêche de bondir un cœur mal enfermé, cruel. Et tu me dis que tu n'es pas aimé.
Se peut-il que le ciel nous joigne et nous sépare? que je laisse l'amour se soumettre à la gloire. Aimons-nous, oublions, vivons, restons ici.
Renaud, à me convaincre aurais-tu réussi? Je cède. Mon effort arrive à ses limites. Je ne me souviens plus des choses que j'ai dites. Peut-on brûler d'amour et se le reprocher? Mets ton navire en fuite avec notre bûcher, brûlons!
Aimons.
Novembre 1946. L'aigle à deux têtes au théâtre Héberto.
La Sophéa!
D'où croyez-vous donc que je sorte? Des ténèbres qui sont ce qui n'est pas vous. Et qui m'y a cherché dans ces ténèbres? Qui m'y a dépêché des ondes plus rapides que des ordres? Qui a fait de moi ce somnambule qui rampait, qui s'épuisait, qui n'entendait que les chiens, les balles et les coups frappés par son cœur? Qui m'a tiré de roche en roche, de crevasse en crevasse, de broussaille en broussaille, qui m'a hissé comme avec une corde jusqu'à cette fenêtre maudite où je me suis trouvé mal? Vous, vous, car vous n'êtes pas de celles que le hasard visite. J'étais ivre de faim et de fatigue, ivre d'orage, ivre d'angoisse, ivre de ce silence qui me déchirait plus qu'un cri. Et j'ai eu le courage de me reprendre, de redevenir cette idée fixe qu'on me demandait d'être, que je n'aurais jamais dû cesser d'être. Je tuerais. Cette chambre deviendrait la chambre de mes noces, je l'éclabousserais de sang. Ah, je comptais sans vos ruses profondes. À peine avais-je cessé d'être un homme, que vous redeveniez une femme. Vous vous y connaissez en sortilège et en machine de féerie. Vous usiez pour faire de moi un héros de toutes les armes qu'une femme emploie pour rendre un homme amoureux.
Je vous ordonne de vous taire.
Il me semblait que vous aviez décidé, entre autres choses, d'abolir le protocole et que nous traitions d'égal à égal.
C'était un pacte entre ma mort et moi. Ce n'était pas un pacte entre une reine et un jeune homme qui escalade les fenêtres.
On a escaladé vos fenêtres, quel scandale! Eh bien, criez, sonnez, appelez, faites-moi prendre par vos gardes, livrez-moi à la justice. Ce sont encore des sensations de reine.
C'est vous qui criez, qui ameuterez le château.
Ameuter le château, être arrêté, exécuté, je m'en moque. Vous ne voyez pas que je deviens fou?
Tirez!
Ne me tentez pas.
Dans quelques secondes, il sera trop tard.
Tout l'amour qui me poussait au meurtre se retourne en moi comme une vague. Je suis perdu.
Dois-je répéter mes paroles? Si vous ne m'abattez pas, je vous abats.
Ah, mais tuez-moi donc. Achevez-moi qu'on en finisse. La vue du sang vous dégoûte? J'aurai au moins une joie si mon sang vous soulève le cœur.
L'accusé n'est toujours pas là. Mais nous avons de lui certaines déclarations écrites. Les voici.
Nous vivons dans un monde où tout doit pouvoir s'expliquer. Où le tribunal interroge, où la police malfaite fait observer du dehors les secrets de famille.
J'imagine une descente de police dans une toile de Quirico comme dans une chambre de poète. Il vaudrait mieux laisser faire et se laisser couper le cou. Dans ma chambre, le moindre objet témoigne contre moi. Les murs, les arcades, les ombres, les statues équestres, les légumes sont suspects.
L'illégal me va.
Le ciel choquerait la terre. Il suffit de contempler la démarche de Jésus pour comprendre que le ciel ne saurait être officiel. Notre croisade sera de scandaliser par amour. Je n'ai jamais prémédité le scandale, je le crois indispensable. Je couche les dormeurs.
Je n'ai jamais d'argent et chacun me croit riche. J'ai le cœur sans écorce et chacun le croit sec.
J'estime que l'art explique la morale et qu'on ne peut se renouveler sans mener une vie dangereuse et donner prise à la médisance.
Le bon écrivain frappe toujours à la même place avec des marteaux de matière de taille différente. Le son change.
La brièveté, la précision, la promptitude, le contour, voici de quoi nous faire prendre pour des écrivains hermétiques.
Tout chef-d'œuvre est fait d'aveux cachés, de calculs, de calembours hautains, d'étranges devinettes.
On s'apercevra vite que mes calembours n'étaient pas l'esprit, mais le cœur de mon livre.
Recueillons enfin une ultime déclaration de l'accusé. Lorsque mes successeurs verront mon aventure, les ressorts, les chaos de ma belle voiture, ils s'émerveilleront d'un si noble parcours. Mais ceux qui maintenant regardent mon passage me trouvent maladroit, chacun se jugeant sage,
et veulent imposer leur route à mes amours.
Quoi ? Vous avez écrit le cap, vocabulaire ? Vous écrivez ceci ? Vous ne pouvez me plaire.
L'homme aime l'uniforme et qu'on n'en change point. Mais après notre mort se livre notre course. La voiture s'étoile ainsi qu'une grande ours. Et nos fruits aigrelets se révèlent à point.
Nous sommes heureux et soulagés d'avoir quelques minutes pour entendre Jean Cocteau lui-même interpréter de nouvelles pièces à conviction. Un tribunal se doit de ne pas avoir de conviction précise a priori. Et c'est pourquoi nous avons nommé pièces à conviction tous les morceaux produits par souci d'objectivité, nous refusant à prendre parti pour ou contre tel ou tel acte de l'accusé et ne visant qu'à présenter dans un délai fort limité les aspects les plus opposés de l'œuvre de Jean Cocteau. Ce caractère d'accusation peut avoir égaré le jury. Ce souci d'opposition peut nous avoir égaré nous-mêmes. Nous prions Jean Cocteau de porter remède à notre choix par l'entremise du phonographe. Huissier, posez l'aiguille.
Un autre poème, à l'encre bleue. L'erreur judiciaire porte sur les mots « encre » ou « encre ». En réalité, le marin attendait une lettre écrite non à l'encre bleue, mais à l'encre bleue, enseigne d'un bar du port. Par une malchance fatale, après le crime, la police ramassa près du col de la vareuse du marin français un stylographe de marin américain rempli d'encre bleue. Il est admissible ensuite que le marin, mais lequel, s'étant endormi sans éteindre, la femme, l'œil collé au trou de serrure, est vue du corridor sur l'épaule, ou plutôt sur la surface d'épaule, ayant la forme capricieuse du trou de serrure, une encre de ce bleu magique, employée par les tatoueurs chinois, et facile à confondre avec l'encre Waterman.
Et voici, pour finir, la préface sonore de Cocteau à Œdipe Roy.
On se représente toujours la Grèce comme une colonne blanche. Imaginez maintenant un lieu brûlé, aride, sous un ciel farouche. Des murs de pierre, des murs de briques, des grilles, des égouts, des chambres basses, des portes secrètes, des métamorphoses, la peste. Là s'entre-dévore de grandes familles en costume de Romanichel et dont les mœurs ressemblent beaucoup à celles d'insectes souterrains. Emplacement idéal pour les dieux qui aiment bâtir et poser des pièges. Les dieux grecs ont la cruauté de l'enfance et leur jeu coûte cher aux mortels. Sans le savoir, Œdipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Je vois une route. Un jeune homme marche avec un bâton. Il approche de Thèbes. Soudain, il s'arrête. Il y a là quelque chose qui bouge. Quelque chose de petit, de suspect. Quelque chose qui fait battre et qui lève le cœur. C'est le sphinx. Une espèce d'oiseau-femme, de femme-chienne, de chienne-oiseau, de chienne qui chante, d'oiseau méchant qui pose des devinettes. Si on ne devine pas ces devinettes, il vous tue. Et le petit sphinx bloque la ville de Thèbes. Il y met la famine et le deuil. Œdipe a deviné l'énigme. Le sphinx est mort. Le sphinx n'inspire aucune confiance. Je lui trouve l'air d'un gibier placé là par les dieux, comme les chasseurs de lions en disposent devant leur piège. Devinez l'énigme. Exterminez le sphinx. Il y a de quoi tourner la tête d'un jeune lion et lui cacher la trappe. Œdipe est beau. Il entre à Thèbes. On l'acclame, on le porte en triomphe. Même il épouse la reine Jocaste, veuve de Laïus. Il est roi.
C'est maintenant au jury seul que nous nous adressons, c'est-à-dire à vous qui nous écoutez. Les accusations portées ce soir vous paraissent-elles justifiées? Il faut nous le dire. Êtes-vous de l'avis du défenseur? Il faut encore nous le faire savoir à l'adresse du tribunal, 37 rue de l'Université, Paris 7e, L'audience est levée.
Vous avez
entendu le procès des pontifs, une émission de Pierre Férou et Claude Roland-Manuel. L'accusé de ce jour était Jean Cocteau, l'accusateur François-Régis Bastide, le défenseur Boris Vian. Les pièces à conviction étaient lues par Marguerite Cassan et André Var. Présentation de Pierre Férou, réalisation Claude Roland-Manuel.
Quel courrier parvint aux 37 rue de l'Université Paris 7e ? Mystère. Ce que l'on sait, c'est que ce procès des pontifes fut diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 janvier 1949. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
You look like